chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons cette série. C'est une des nombreuses séries, puisqu'il y en a déjà eu, il y a quelques années de cela, sur le salut, et je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Mais le Seigneur m'a donné quelque chose d'extraordinaire pour compléter cette série. Eh bien, comme vous le savez, il s'agit du salut. Et aujourd'hui, ce sera l'étude numéro 4, et nous pouvons donner comme titre l'entrée dans le royaume de Dieu. Je dis bien que cette étude va compléter les trois autres qui ont été absolument nécessaires pour bien comprendre l'importance de ce que nous devons nous repentir, de nous humilier, et ce qui concerne le salut dans son ensemble. Et maintenant, nous terminons donc pour vraiment clore cette étude d'une façon absolument juste et biblique, pour que tous puissent comprendre ce qu'il nous est demandé si nous voulons être des disciples authentiques, si nous voulons être des chrétiens authentiques dans les diverses églises que vous vous trouvez. Dans cette étude, nous allons parler d'un sujet que je crois être extrêmement important. Et je prie sincèrement, afin de pouvoir développer ce thème, que le Saint-Esprit me permette de dire tout ce qui doit être dit et que vous puissiez avoir les cœurs et les esprits ouverts et réceptifs à la vérité de la Sainte Parole de Dieu. Le thème de notre étude est l'entrée dans le royaume de Dieu. Comment une personne entre-t-elle dans le royaume de Dieu? Et comme introduction, je veux prendre un passage des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 et 38. Il est dit que, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à l'apôtre Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » L'apôtre Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Or ces hommes étaient tous juifs. Ils avaient l'avantage d'appartenir à une nation que Dieu avait mise à part lui-même. Ils étaient religieux, ils étaient croyants dans les Saintes Écritures et ils s'étaient rassemblés pour une fête religieuse à Jérusalem à ce moment-là. Cependant, quand la vérité de la parole de Dieu leur a été donnée par l'apôtre Pierre, sous l'onction de l'Esprit Saint, ils ont soudain réalisé que leur relation avec Dieu n'était pas tout à fait bonne, qu'ils n'étaient pas dans la provision que Dieu avait préparé pour eux à travers le Messie qu'il avait promis, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. Ils étaient séparés de Dieu, ils n'étaient pas dans sa grâce, ils n'étaient pas liés à lui d'une bonne façon, pas dans l'assurance du pardon des péchés. Ils n'avaient pas dans leur cœur cette paix profonde qui appartient à tous ceux qui viennent à Dieu et qui restent dans une bonne relation avec lui. Ils n'avaient pas réalisé cela, comme beaucoup ne le réalisent pas, jusqu'à ce que la parole de Dieu leur soit révélée sous l'onction de l'Esprit Saint. Ensuite, il est écrit, « Ils eurent le cœur vivement touché. » Actes, chapitre 2, verset 37. Je peux prendre un moment pour illustrer la réponse de Pierre. J'ai ici la réponse en trois étapes. Et elle se présente ainsi. La première étape, c'est se repentir. C'est ce que nous avons eu dans les trois précédentes études et CD. La deuxième étape, c'est être baptisé. La troisième, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et il est parfaitement clair que l'apôtre Pierre a donné cette réponse d'une traite. Il n'a pas introduit plusieurs causes ou plusieurs qualifications. Il a juste dit, si vous voulez savoir ce qu'il faut faire, voici ce que Dieu exige, que vous vous repentiez, c'est ce que nous avons vu, et que vous soyez baptisés et que vous receviez le Saint-Esprit. Maintenant, je pense que cette réponse est très différente de celle qui serait donnée par la plupart des prédicateurs ou des églises aujourd'hui. C'est vrai que aujourd'hui, on trace beaucoup de choses qui se trouvent pourtant dans la Sainte Bible. Paul a dit, et nous le savons maintenant, « Repentez-vous. Ensuite, soyez baptisés et recevez le Saint-Esprit. » Et remarquez que, selon le récit des Actes, 3000 personnes ont fait ces trois choses le jour de la Pentecôte. Elles se sont repenties, elles ont été baptisées, et personnellement, je suis convaincu que toutes ont reçu le Saint-Esprit. Cela n'était pas découpé en étapes successives, pouvant être suivies lentement par des arrêts de semaines ou de mois ou d'années. Non, ce n'était pas suivi lentement et selon le bon plaisir de chacun. Mais la réponse était très claire, elle était complète. Il y avait trois choses. Se repentir, c'est ce que nous avons vu dans les trois précédentes études. Être baptisé maintenant et recevoir le Saint-Esprit. Et je suis convaincu que Dieu est en train de confronter l'Église face à sa réponse aujourd'hui aux non-croyants, à l'homme hors de Christ et de la véritable Église qui souhaite entrer dans le royaume de Dieu, qui souhaite s'identifier avec le peuple de Dieu, être correctement relié avec le peuple de Dieu et avec Dieu par Jésus-Christ. La réponse que nous donnerons sera précisément celle qui a été donnée par l'Église primitive. Repentez-vous, baptisez-vous et recevez l'Esprit Saint. Concernant la repentance, vous venez d'entendre trois CD très importants sur ce sujet-là. Et maintenant, l'exigence suivante de Dieu, qui est donnée par l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 2, verset 38, est que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Se repentir, c'est la décision intérieure. Être baptisé, c'est l'acte extérieur visible. Et puis, recevoir l'Esprit Saint, c'est l'équipement pour la vie chrétienne qui suit ces deux premières étapes. Étudions un peu la nature du baptême. Regardez ce que l'Écriture sainte enseigne au sujet du baptême. Le baptême d'eau est une étape majeure, fortement sous-estimée par la majorité des chrétiens. L'exigence de l'apôtre Pierre à la Pentecôte était spécifique. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé sans omission. Et si vous analysez la mission que Jésus donna à ses disciples à la fin de son ministère terrestre, cité dans deux évangiles, c'est-à-dire Saint Matthieu et Saint Marc, notez Matthieu chapitre 28 versets 19 et 20, là il est dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'était ces instructions-là. La preuve immédiate du fait d'être un disciple, c'était donc d'être baptisé. Faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les enseignements qui leur sont adressés étaient d'avance dans l'obéissance complète de la volonté révélée de Dieu. Mais la première preuve visible du disciple, c'était le baptême. Donc, la preuve immédiate du fait d'être un disciple était d'être baptisé. Alléluia. Maintenant, dans Saint Marc, chapitre 16, versets 15 et 16, les instructions de Jésus sont données comme suit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera définitivement sauvé. Le baptême, c'est l'identification avec le Seigneur, avec Jésus-Christ, dans la mort et dans l'ensevelissement et dans la résurrection ensuite. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6, versets 3 et 4, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 12, il est dit: ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc, mes chers amis, dans le baptême, nous nous reconnaissons nous-mêmes comme étant morts au péché, mais comme étant vivants pour Dieu. Étant morts, nous passons à travers l'étape suivante, c'est l'ensevelissement, et si nous suivons Jésus dans la tombe, eh bien nous le suivons dans la résurrection. Mais nous ne pouvons entrer dans cette vie de résurrection sans passer par le chemin suivi par Jésus, c'est-à-dire le chemin de l'ensevelissement, le chemin de la tombe. C'est donc très clair. L'identification est double. Jésus s'est identifié lui-même avec vous et avec moi en tant que pécheur. Il a pris notre place et est devenu notre substitut. Il a pris sur lui notre nature pécheresse, notre nature charnelle et rebelle. Il est mort. Il est mort de notre mort. Il est mort comme notre substitut. Il est mort à notre place. C'était son identification avec le pécheur que nous sommes. Maintenant, pour le salut, le pécheur, par la foi, doit compléter l'identification. Je dois dire oui. Quand Jésus est mort sur la croix, je suis mort avec lui. Sa mort a été ma mort. Mon vieil homme est mort avec lui quand il est mort. Alors je dis, si je meurs avec lui, je dois le suivre. Je dois le suivre de la mort à la tombe, puis de la tombe à la résurrection. Et le baptême d'eau, selon le Nouveau Testament, par les apôtres et l'acte, c'est l'acte d'identification ouvert et public avec le Seigneur Jésus-Christ dans la mort, dans l'ensevelissement et la résurrection. L'Église primitive ne connaît aucun moyen de s'identifier à Jésus et aucune entrée dans le royaume et dans la communion avec le peuple de Dieu sur la terre, autre que le baptême d'eau. Maintenant, si vous lisez le livre des Actes, vous ne trouverez aucune personne qui soit convertie sans être immédiatement baptisée. Vous ne le trouverez pas. Je vais vous citer quelques brefs exemples dans Actes chapitre 8, verset 12. Nous lisons que Philippe est allé en Samarie, il a prêché le Christ, c'était toute sa prédication, c'est-à-dire le Christ. Mais au verset 12, il dit, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, de ce qu'il a prêché, hommes et femmes se firent baptiser. Quand ils ont entendu le message du Christ, ils ont su que cela impliquait le baptême. Ils savaient qu'ils étaient tenus de s'identifier avec le Seigneur en qui ils avaient mis leur foi par cet acte extérieur, par cette ordonnance publique de la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Pardon. Un peu plus loin, dans le 8e chapitre des Actes, dans le ministère de Philippe, à la suite de cette situation dans la Samarie, il se trouvait sur la route de Jérusalem à Gaza. Il a rencontré l'eunuque éthiopien dans le char. Cet eunuque lisait le prophète Ésaïe. Et là, on voit que Philippe s'est approché et lui dit « Est-ce que tu comprends tout ce que tu lis ?» L'homme lui répond « Non, 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 je ne comprends vraiment pas trop. C'est assez ardu. » Car il lisait le chapitre 53 de Ésaïe, parlant de Jésus qui est mené comme une brebis à la boucherie, et il est dit que Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez qu'il y a une chose qui me plaît chez notre ami et disciple vraiment sincère, Philippe. C'est son message. Il n'était pas du tout compliqué. Quand il est allé en Samarie, il a prêché Christ. Quand il a rencontré l'eunuque, il a prêché Jésus. Un peu plus tard, il est dit qu'ils rencontrèrent de l'eau à côté de la route, et l'eunuque dit, et non pas Philippe, c'est l'eunuque qui dit ce que vous allez entendre. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce que notre ami Philippe, véritable disciple, avait prêché? C'était Jésus. Qu'est-ce que l'eunuque avait compris? Il a compris que si je crois en Jésus, je ferais peut-être mieux d'être baptisé. Je ne vais pas attendre de rejoindre Gaza et la côte. Voici de l'eau sur ce chemin. Faisons donc ce qui doit être fait maintenant et pas dans quelques années. Et Philippe est entré dans l'eau avec lui et il a été baptisé. Comme vous pouvez le voir, le baptême était une question d'extrême urgence pour ceux qui entendaient l'Évangile par l'Église primitive. Cela n'a jamais été quelque chose à prendre vraiment à la légère, retardé ou fait selon le bon vouloir de chacun d'entre nous. Il n'était pas du tout question d'avoir à attendre des semaines pour un service de baptême. Mais c'était plutôt quelque chose à faire quand vous croyez sérieusement, sincèrement en Jésus-Christ, après vous vous êtes repenti sincèrement. La repentance était donc la décision intérieure. Le baptême était l'acte extérieur qui scellait la prise de décision intérieure, la rendant ainsi effective et également, on peut dire, publique. Dans Actes, au chapitre 9, nous lisons à propos de la conversion de Saul de Tarse, qui est devenu, comme vous le savez, l'apôtre Paul. Et nous lisons comment Ananias lui a été envoyé, lui posa ses mains sur lui pour retrouver la vue et pour être rempli du Saint-Esprit. Le verset suivant nous dit « Paul se leva et il fut baptisé dans l'heure, pendant quelques mois. » Et dans le récit de cet événement, dans Actes chapitre 22, verset 16, l'apôtre Paul nous parle de quelque chose que Ananias a dit, qui n'apparaît pas dans Actes chapitre 9, mais qui apparaît dans Actes chapitre 22, verset 16. Paul raconte que Ananias lui a dit « Et maintenant, que tardes-tu? Qu'est-ce que tu attends? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tous tes péchés et en invoquant le nom du Seigneur. » En d'autres termes, qu'est-ce que tu attends? Tu crois maintenant en Jésus? Alors que fais-tu? Eh bien, sois baptisé. Comme vous pouvez le voir, nous avons complètement dénaturé l'attitude de l'Église primitive et l'enseignement du Nouveau Testament sur le baptême d'eau. Mais les baptistes les plus orthodoxes sont loin des fondements de l'Écriture sainte sur la question du baptême. Je ne parle pas de tous, bien entendu, quelques-uns. Bon, du reste, même si un cardinal, un monseigneur, serait-ce même le pape, qui baptise le petit bébé. Eh bien, si vous relisez attentivement le Nouveau Testament, sans que je doive vous le dire, vous trouverez par vous-même que ce n'est pas du tout écrit dans le Saint-Livre, pas du tout. Regardons maintenant un peu plus loin, Actes chapitre 6, versets 44 à 46. L'apôtre Pierre est allé à contre-cœur à la maison d'un gentil, c'est-à-dire un non-juif. C'était Cornélius. Il a commencé à lui parler de Jésus sans jamais terminer son sermon. Le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint. Et il dit que les croyants juifs qui arrivaient étaient étonnés de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu sur les païens, car il les entendait parler en langue et de glorifier Dieu. Cela était donc suffisant? Absolument pas. On pourrait croire que cela était suffisant, mais il ne semble pas. Car l'apôtre Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Actes chapitre 10, verset 47. Être baptisé dans le Saint-Esprit ne remplace pas le baptême d'eau. Et je veux vous dire, mes chers amis, de dénominations et de lignes anciennes, de quelques églises que vous soyez, le fait que vous soyez baptisés du Saint-Esprit et que vous parliez en langue ne vous dispense pas de l'obligation du baptême d'eau. L'ensemble de la maison de Corneille a été baptisé dans l'Esprit Saint tel que rapporté par les Saintes Écritures. Pierre leur a demandé de se faire baptiser. Ce n'était pas une option quelconque pour l'Église primitive, mais c'était une exigence explicite de Dieu. Si vous voulez vous réconcilier avec Dieu, repentez-vous, soyez baptisés et recevez le Saint-Esprit. Et si vous recevez l'Esprit Saint en premier, cela ne signifie pas du tout que vous pouvez outrepasser l'exigence d'être baptisé. Oh non, faisons attention à cela, d'accord? Donc, Actes chapitre, je crois que c'est le chapitre 16, et probablement c'est la scène vraiment la plus spectaculaire de toutes, et cela à Philippe, quand l'apôtre Paul et Silas, quand ils se trouvaient en prison, là ils ont chanté des louanges à Dieu dans la nuit. Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre, les fondations de la prison furent ébranlées, toutes les portes se sont ouvertes, les liens de tous furent rompus, les prisonniers étaient libres, le geôlier est arrivé et il allait même se suicider car il aurait à répondre de sa vie pour tous les prisonniers qui se seraient échappés. L'apôtre Paul a dit, « Surtout ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Et alors l'homme était tellement impressionné par cette démonstration d'amour qu'il est entré tout tremblant et il a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? What shall I do to be saved ?» Ils lui ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Believe on Jesus Christ, and you will be saved, you and your whole family. » Et il est écrit qu'il lui annonçait la sainte parole du Seigneur, ainsi que à tous ceux, oui, à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, ils ont tous été baptisés immédiatement et non pas dans quelques années. Ils n'ont pas attendu l'aube. Ils ont été baptisés au milieu de la nuit. Vous voyez, voilà l'urgence du Nouveau Testament. Rien à avoir avec le message que l'on entend dans 99% des églises ou de la part de 99% des prédicateurs. Nous sommes donc loin de la réalité de l'Église primitive dans le Nouveau Testament. Chers amis, disons, et c'est moi qui dois le faire maintenant, merci Seigneur que tu permets que ma voix puisse être claire à 90 ans pour que ceux qui entendront ce message puissent absolument le comprendre. Merci de faire ce miracle. Merci, mon Sauveur et Seigneur. Chers amis, un pasteur parlait du baptême d'eau à un groupe de personnes. C'était à Fort Lauderdale, en Floride, il y a quelque temps de cela, et ils ont dit « Nous voulons être baptisés ». Ils ont demandé « Où pouvons-nous être baptisés ?» Eh bien, le pasteur leur a répondu « L'océan doit être suffisamment grand, j'espère. L'océan Atlantique se trouvait à quelques kilomètres vers l'est. Alors ils ont dit, très bien, nous pouvons y aller. Voulez-vous vraiment nous baptiser? Il était tout de même environ minuit et le pasteur était tout de même, vous le comprenez, un tout petit peu fatigué. Mais il a dit, bien sûr. Et il est allé à la plage avec eux. Et il les a baptisés. Ils vivaient à Miami. Et ils ont tous pris leur voiture avec les mêmes vêtements qu'ils avaient pour rentrer dans la mer. Et ils ont conduit complètement trempés, mais extrêmement heureux, de Fort Lauderdale à Miami. Voilà le christianisme du Nouveau Testament. Voyez-vous? Voilà ce que je dois vraiment faire. C'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et est-ce que cela signifie juste de croire un peu? Non, non, non. Cela signifie de croire d'abord, mais aussi d'être baptisé. Maintenant, je veux souligner le fait qu'il n'y a aucun récit de quelqu'un qui aurait été baptisé sans avoir au préalable reçu la parole, la sainte parole, et de pouvoir croire dans cette sainte parole. La première exigence pour le baptême est clairement indiquée dans trois passages de l'Écriture sainte. Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Il est dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites d'abord des disciples et ensuite baptisez-les. » Saint Marc, chapitre 16, verset 16. Car celui qui croira et qui sera baptisé sera vraiment sauvé. Que devez-vous faire en premier? C'est de croire, puis être baptisé. Actes chapitre 2, verset 38. Hommes, frères, que ferons-nous? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Avant qu'une personne soit qualifiée pour le baptême, elle doit faire trois choses. Devenir un disciple, se repentir et croire. Une personne qui ne peut pas devenir un disciple ne peut pas se repentir ou croire. Elle n'a donc aucun droit de se faire baptiser. Vous me direz, à qui pensez-vous? Mais je pense aux petits-enfants, je pense à des bébés qui ne peuvent par nature, me semble-t-il, ne peuvent pas remplir aucune de ces conditions. Les bébés ne peuvent pas devenir des disciples, ne peuvent pas se repentir ou croire vraiment. Alors quel âge une personne devrait-elle avoir? Je pense qu'elle doit être suffisamment âgée pour croire, pour pouvoir comprendre et pour se repentir. C'est donc aussi simple que cela. Pourquoi suis-je trop jeune? Tu m'as dit de croire et d'être baptisé et je crois. Pourquoi ne pourrais-je pas être baptisé? Donc, ma femme l'a amené à la mission d'une assemblée de Dieu et a dit au pasteur, pouvez-vous discuter seul avec elle et voir si elle est prête à être baptisée? Alors le pasteur l'a amenée dans son bureau, lui a parlé, l'a interrogée et il a découvert qu'elle avait compris les Écritures et avait une véritable foi personnelle en Jésus, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait été un bébé. Je ne vois aucune raison pour qu'elle ne soit pas baptisée, a-t-il dit. Donc, elle a été baptisée, et c'était l'époque de Noël. Il faisait quand même assez froid, et elle était petite et fragile. Cette femme, j'ai dit ma femme, c'est pas la mienne, évidemment, cette femme lui a mis une robe longue et blanche, et le pasteur l'a prise dans ses bras pour le baptistère, et cette femme a pensé, eh bien, maintenant je suis de retour au baptême des enfants, que ai-je fait? Et alors quand le pasteur a plongé cette fille dans l'eau et l'a ressorti. Savez-vous ce que Dieu a fait? Il l'a baptisée du Saint-Esprit. C'était la confirmation de Dieu que tout allait bien. Si je peux la baptiser dans l'Esprit Saint, vous n'avez pas fait une erreur en la baptisant dans l'eau. Ainsi, quiconque peut être baptisé dans le Saint-Esprit peut aussi être baptisé dans l'eau, évidemment. Toute la famille de Corneille a été baptisée dans l'Esprit Saint, Actes chapitre 10, et dans Actes chapitre 16, toute la famille du geôlier de Philippe, rappelez-vous, a entendu la sainte parole de Dieu et a cru. Il n'y avait pas de bébé entre eux. Ainsi, il n'y a qu'un seul type de personne qui n'est pas qualifié pour cela. Ce sont les tout petits enfants. Tout simplement parce qu'un tout petit enfant, me semble-t-il, je peux me tromper, mais ne peut pas, me semble-t-il, ne peut pas répondre aux exigences de base. il ne peut pas devenir un disciple, il ne peut pas se repentir, il ne peut pas croire, et quand il sera suffisamment âgé et qu'il voudra faire ces choses-là, il sera suffisamment âgé pour être baptisé. Et je vous assure que l'âge spirituel n'est pas lié à l'âge naturel. Beaucoup de petits enfants âgés de 6, 7 ou 8 ans sont parfois plus matures spirituellement que certains chrétiens de 50. Mais il doit quand même être assez âgé pour comprendre qu'il est un pécheur, qu'il a besoin de se repentir, qu'il a besoin de croire, et pour devenir un disciple. Le baptême, donc, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est ce que nous allons voir maintenant. C'est la troisième disposition ou la troisième exigence de Dieu, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Eh bien, tout d'abord, c'est une immersion. Ensuite, c'est un peu comme boire. C'est de recevoir à l'intérieur de nous. Et pour finir, cela suit le débordement. Penchons-nous un peu sur ces trois étapes et voyons ce que l'Écriture sainte enseigne. Tout d'abord, regardons à Actes chapitre 1, verset 5 et trouvons la réponse. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cela a été dit à des hommes qui s'étaient déjà engagés comme chrétiens. Ils s'étaient repentis, ils avaient cru et avaient donné leur vie à Jésus. Mais Jésus leur a dit, il y a plus que cela. Vous avez encore besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Puis, dans les Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus leur parle du but de ce baptême. Mais vous recevrez une puissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le but du baptême dans le Saint-Esprit est essentiellement de vous imprégner d'une puissance surnaturelle pour devenir un témoin efficace pour le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que l'on pourrait dire que si chaque personne convertie allait mourir immédiatement et aller au ciel, eh bien le baptême du Saint-Esprit ne serait pas nécessaire dans ce cas. Mais voyez-vous, la plupart d'entre nous ne sont pas encore morts. Nous vivons encore un peu. La repentance et le baptême vous qualifient pour le ciel, mais le baptême dans le Saint-Esprit vous qualifie pour la terre, pour servir Jésus-Christ. Et la plupart d'entre nous ont besoin de cette qualification. parce que nous n'allons pas mourir immédiatement après avoir mis notre foi en Jésus-Christ. Nous devons vivre maintenant pour lui. D'une certaine façon, il est beaucoup plus facile de mourir que de vivre. Il est bien plus difficile, surtout de nos jours avec tout ce qui se passe, le chômage et les guerres et les maladies terribles, les virus de toutes sortes. C'est pas facile de vivre pour Christ. Dieu a pourvu avec cette provision surnaturelle par le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une expérience surnaturelle parce que nous avons un témoignage surnaturel. Nous disons aux gens qu'un homme qui est mort sur une croix romaine il y a plus de 2000 ans n'est pas mort. Non, non, non. Mais qu'il est vivant maintenant, plus que jamais. Ça, c'est surnaturel. Si nous n'avons que la puissance et la sagesse naturelle, alors que le témoignage est surnaturel, il y a un manque d'équilibre. Le monde le sent immédiatement. Car Jésus a dit, ne sortez pas et ne commencez pas à parler aux gens de ma résurrection jusqu'à ce que vous ayez reçu cette puissance-là. Alors, votre témoignage aura la puissance correspondante à ce témoignage. À témoignage surnaturel, je répète, à témoignage surnaturel, la puissance surnaturelle, c'est pour l'accompagner. C'est la raison logique pour le baptême du Saint-Esprit. Le baptême dans l'Esprit Saint était considéré autant normal et autant nécessaire que le baptême d'eau. Si nous regardons Actes chapitre 8, nous avons déjà étudié ce passage qui est lié au baptême que les croyants samaritains ont expérimenté lorsqu'ils ont cru Philippe, rappelez-vous. Ils ont été baptisés dans l'eau immédiatement et ils ont eu des expériences merveilleuses. Ils ont été convertis, sauvés, guéris miraculeusement. Ils ont été délivrés de mauvais esprits, certains d'entre eux. Beaucoup de gens diraient, n'est-ce pas merveilleux tout cela, ce qui se passe en Samarie? Mais pas l'Église primitive. Dans Actes chapitre 8, versets 14 et 18, il est écrit, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu et envoyèrent l'apôtre Pierre et Jean, ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et en poursuivant le livre des Actes, nous voyons dans Actes chapitre 9, le chapitre suivant dans lequel il est indiqué que l'apôtre Paul se convertit, que Ananias a été envoyé pour lui imposer les mains pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre est allé à la maison de Corneille et alors qu'il parlait encore. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la Sainte Parole. Actes chapitre 10, verset 44. Ils ont donc été baptisés dans l'Esprit Saint. Et dans Acte 19, l'apôtre Paul est allé à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il a constaté qu'il ne connaissait que le baptême de Jean le Baptiste. Et il leur a parlé de Jésus. Il leur a parlé de sa mort et de sa résurrection. Et il est écrit que quand ils ont cru l'apôtre Paul, ils ont tous été baptisés. Et le sixième verset nous dit que lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Actes chapitre 19, verset 6. Beaucoup de prédicateurs prêchent merveilleusement les évangiles. Mais la parole de Dieu, le Nouveau Testament, ne s'arrête pas à l'évangile de Saint Jean. Nous devons continuer, bien que, dans mon cas autrefois, oh, il y a fort longtemps, vous pouvez bien comprendre, eh bien, l'évangile de Saint Jean était pour moi tout ce qui avait de plus important. C'était formidable, merveilleux. Et c'était, en même temps, absolument nécessaire pour pouvoir être sauvé. Mais revenons à notre texte. L'Église primitive a complètement accepté et a pratiqué à la lettre les exigences qui ont été données par l'apôtre Pétre et Pierre, c'est-à-dire se repentir, être baptisé et recevoir le Saint-Esprit. Ils ne connaissaient pas d'autre programme pour une personne souhaitant entrer dans le royaume de Dieu que de passer par ces trois étapes-là, c'est-à-dire la repentance, le baptême et la réception du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce donc le baptême du Saint-Esprit ? Tout d'abord, c'est un baptême. Bien sûr que s'il n'y a pas d'immersion, il n'y aura pas de baptême. Cela veut dire tremper, plonger et immerger. Voilà précisément ce que cela signifie. S'il n'y a pas d'immersion, il n'y a pas de baptême. C'est la seule chose que nous pouvons dire. Le baptême par le Saint-Esprit est un baptême. Mais est-ce que je l'appelle le baptême des chutes du Niagara? Pas du tout. C'est une immersion qui vient d'en haut. Lors du baptême d'eau, on descend dans l'eau, hein? D'accord? On descend dans l'eau. Mais lors du baptême dans le Saint-Esprit, l'Esprit Saint descend sur la personne. Elle est immergée par le dessus. Et pourtant, où on parle de personnes qui sont baptisées dans l'Esprit Saint, c'est ce qui est écrit dans le livre des Actes. Il est stipulé expressément que le Saint-Esprit descendit sur eux. Dans Acte 2, il est décrit, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Acte chapitre 2, verset 2. Donc, l'Esprit Saint descendit comme un vent sur eux d'en haut et remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors, si toute la maison où ils étaient était remplie, chacun d'eux a été entouré et a été immergé par l'Esprit Saint de Dieu qui est descendu sur eux. Alors il est écrit, ils furent tous remplis individuellement, ils ont reçu l'Esprit intérieurement. Et puis il est dit qu'ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, nous avons ici les trois étapes. Immersion d'en haut, c'est le type de baptême des chutes du Niagara. Boire ou recevoir à l'intérieur, ça c'est le débordement surnaturel. Jésus a dit très clairement comment un croyant peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et même dans Saint Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Et là, il est dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir tous ceux qui croiraient en lui. Donc, pour recevoir le baptême, vous devez venir à celui qui baptise, c'est-à-dire vous devez venir à Jésus. Jésus vous immerge d'en haut, dans le Saint-Esprit, et vous le recevez en le buvant intérieurement. Ça, c'est l'acte individuel et personnel de recevoir. Le fait de boire n'est pas un acte collectif, mais individuel. Parce que vous êtes la seule personne qui peut boire pour vous-même. Personne ne peut le faire à votre place. Personne. C'est un acte que chaque individu doit faire pour lui-même, pour elle-même. Quelqu'un a mentionné le vieil adage. Vous pouvez mener un cheval à l'eau, mais vous ne pouvez pas le forcer à boire. Vous pouvez conduire un futur baptisé au baptême, mais vous ne pouvez pas le faire boire. Chaque personne doit recevoir pour elle-même, c'est-à-dire individuellement. Cela ne se limite pas seulement aux baptisés, mais cela s'applique à tout le monde. Il y a l'acte individuel de recevoir, mais le résultat, c'est le débordement. Saint Matthieu chapitre 12, verset 34. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est rempli à ras-bord, cela déborde par où ? Mais par la bouche. Et de quelle façon? Mais en parlant. Ma version moderne de cela, c'est que quand le cœur est complètement rempli, il déborde en parlant de la bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est rempli de l'Esprit Saint, le résultat suivant et le débordement. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parle de l'Esprit Saint. Par conséquent, l'expérience complète est l'immersion, boire, recevoir à l'intérieur. Puis ensuite le débordement, il se fait par le parler surnaturel dans une langue inconnue. Et voici donc la provision totale de Christ, c'est-à-dire de Dieu. C'est tout d'abord, on l'a compris, se repentir, ça c'est le changement intérieur, c'est le plus important. Vous pouvez parler en langue, mais si vous n'êtes pas changé intérieurement, et que si vous mourrez à l'instant même, c'est pas bon pour vous. Par contre, vous ne pouvez également pas parler en langue, mais être totalement changé intérieur, d'être sauvé et mourir maintenant, vous allez au ciel, bien que vous n'avez jamais parlé en langue. Du reste, je dois vous avouer que je ne parle pas en langue, bien que je parle plusieurs langues. Être baptisé, c'est donc l'acte extérieur. Recevoir le Saint-Esprit, le revêtement surnaturel, pour une vie chrétienne efficace. En conclusion, je voudrais vous montrer brièvement un modèle de l'Ancien Testament. Et je vais illustrer cela par 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2, où l'apôtre Paul dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Et puis au verset 6, « Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Ensuite au verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple ou de modèle. » Et elles ont été écrites pour notre instruction ou notre avertissement à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi, le récit de la délivrance des Israélites hors d'Égypte dans l'Ancien Testament est écrit pour notre instruction, car il contient des types. Il contient des modèles ou des images de ce que Dieu exige de nous dans le Nouveau Testament. Et vous verrez que le Nouveau Testament parle de la délivrance d'Israël hors d'Égypte comme le salut. Dans l'épître de Jude, au 5e verset, il est dit « Après avoir sauvé le peuple, et l'avoir tiré du pays d'Égypte. » Comment le salut est-il arrivé? Il est arrivé en 3 étapes. La première a eu lieu en Égypte. La foi dans le sang de l'agneau pascal, qui a été immolé pour chaque foyer. Et dans 1 Corinthiens 5, verset 7, il est écrit: car Christ est notre Pâque, il a été immolé. La première expérience du salut, c'est la foi dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. L'agneau de Dieu, lui qui ôte le péché du monde. Mais après avoir accepté le sang de l'agneau, Israël n'est pas resté en Égypte. La nuit même, il leur a été demandé urgemment de partir en hâte, les reins sains et le bâton à la main. Tandis qu'ils partaient, ils ont reçu un double baptême. Il est dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont été soumis à un double baptême qui était le point culminant de leur délivrance hors d'Égypte. Maintenant, le terme « baptisé » qui a été utilisé par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10 nous montre ce que la délivrance d'Israël représentait. Ils ont été sauvés par la foi au sang de l'agneau Jésus-Christ. Et ensuite, ils ont été soumis à un double baptême dans la nuée et dans la mer. À quoi correspond le baptême dans la nuée? Il correspond au baptême dans l'Esprit Saint. À quoi correspond le baptême dans la mer? Il correspond au baptême d'eau. Regardez la nuée. La nuée est descendue sur les Israélites venus d'en haut. Elle se tenait face à eux. Mais quand les Égyptiens les ont poursuivis et se sont approchés, la nuée s'est déplacée derrière eux. Donc chaque Israélite, individuellement, y est entré, l'a traversé et est sorti de la nuée. Chaque Israélite a été immergé dans la nuée qui est venue d'en haut sur eux. C'était un baptême authentique, une véritable immersion. Le lendemain, ils sont descendus dans les eaux de la mer Rouge, qui se sont miraculeusement séparées, et ils sont passés à travers, et ils sont sortis de l'autre côté. Et Israël a été sauvé, sauvé dans l'Ancien Testament, par la foi dans le sang de l'agneau, par un double baptême, dans la nuée et dans la mer. Quelle est la disposition correspondante de Dieu dans le Nouveau Testament? C'est la foi dans le sang du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés, suivi par un double baptême dans la nuée, c'est le Saint-Esprit, et la mer, c'est l'eau. Et puis il est écrit, ces choses sont exemptes pour nous. Quel a été le salut pour Israël? Regardons rapidement pour conclure, qu'est-ce qui a été prévu? C'est le sang qui amène la justice. Nous sommes rendus justes devant Dieu. Ensuite, la nuée a donné la protection, le confort et la direction. Elle était leur guide tout au long de la marche dans le désert. Et la mer a amené la séparation définitive avec leurs ennemis pour une nouvelle vie avec un nouveau dirigeant, de nouvelles lois et une nouvelle destination. Nous sommes donc ensevelis avec Christ et nous nous levons pour marcher avec lui en nouveauté de vie. Voici l'entière provision de Dieu et la réponse de Dieu quand un croyant ou toute autre personne vient à lui et demande « Que devons-nous faire ? » Repentez-vous, soyez baptisés et recevez le Saint-Esprit. Nous n'avons malheureusement plus le temps de dire beaucoup de choses. Je voudrais simplement que nous puissions faire une toute petite prière. Seigneur, montre-nous à tous la compréhension de ce que nous venons d'entendre et que cela entre dans notre cœur et que nous puissions le concrétiser. Montre à chacun où il en est avec Dieu et aide chacun à agir selon ta sainte parole pour cette pleine délivrance du monde et l'entrée dans le royaume de Dieu. Et Seigneur, nous voulons te louer et te rendre gloire dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et soyez bénis. Et je vous aime. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous aime. Oh oui. Avec le Seigneur. À demain matin pour la suite de cette série. Au revoir.